Nous voici donc en ce deuxième dimanche du temps de carême. Dimanche dernier, nous avons entendu ce récit, le Christ Seigneur au désert. Le Christ a affronté déjà et tout au long de son existence le mal. Et nous savons qu'il l'a vaincu par son amour, amour du Père, amour des hommes, puisque c'est par amour pour nous que Dieu s'est fait homme. Et la victoire définitive, c'est au moment de la croix, lorsque le Seigneur meurt dans les plus grandes violences, le plus grand dénuement, et ne montre pas sa puissance divine, mais reste dans l'obéissance et l'amour. Aujourd'hui, nous voici avec ce récit, on est encore vraiment au début, on peut dire, du carême, avec ce récit de la transfiguration. Pourquoi nous mettre un tel récit? Eh bien, nous avons normalement commencé ce chemin avec le Seigneur, et nous savons que c'est un chemin qui est le chemin du désert, c'est-à-dire ce chemin où nous nous retrouvons nous-mêmes et que nous sommes invités à nous placer d'une manière nouvelle, réfléchie, amoureuse devant Dieu. Mais lorsqu'on fait l'expérience, notamment à travers une retraite, mais pas uniquement, lorsqu'on fait l'expérience de vouloir être avec le Seigneur, de vivre davantage de la foi dans le Christ, de vivre davantage des 10 paroles de vie, on s'aperçoit qu'il y a toujours et assez rapidement un vrai combat qui commence. Alors nous pouvons nous demander, mais en qui ai-je mis ma foi? Et le Seigneur, à travers cet évangile, nous répond, à travers cette transfiguration. Il nous répond, Jésus n'est pas simplement un homme qui aurait été enrichi par Dieu de grâces particulières. Jésus n'est pas seulement un prophète. Jésus est Dieu lui-même. Alors, si nous commençons par faire, on pourrait dire, une lectio divina de notre texte, il nous est dit, en ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Je vous l'ai dit souvent, quand vous voyez marqué « en ce temps-là », c'est une invitation à prendre la parole de Dieu et aller voir qu'est-ce que c'est que ce temps-là. Alors, il arrive que nous prenions une voie un petit peu plus facile plutôt que la voie difficile dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ici, on a pris la voie la plus facile de dire « en ces temps-là » plutôt que de mettre le texte exact. Le texte exact est celui-ci, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, les emmena sur une haute montagne. » 6 jours après, évidemment, ça nous pose une question, 6 jours après quoi ? Et si nous regardons chez saint Marc, nous ne voyons pas pourquoi 6 jours après quoi. On ne perçoit pas 6 jours après quoi. Eh bien, c'est une leçon difficile puisqu'on ne trouve pas la réponse. Mais il faut nous rappeler, on le disait déjà dimanche dernier avec les 40 jours au désert, nous avions dit 40 jours, ça n'est pas de l'arithmétique d'abord, mais c'est un langage théologique qui exprime la libération de l'esclavage. Les 40 ans au désert, les 40 jours de Moïse, et là les 40 jours du Christ. Il en va de même pour ces 6 jours. 6 jours n'est pas là non plus pure arithmétique. C'est un langage théologique, et 6 jours, c'est le temps requis pour se purifier avant d'approcher Dieu. Quand vous lisez le livre de l'Exode, au chapitre 24, vous découvrez cela. Moïse va gravir la montagne. On retrouve la montagne. La nuée recouvre la montagne. On retrouve la nuée, comme aujourd'hui. Et la gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï que la nuée recouvrit pendant 6 jours. Et donc, le 7e jour, le Seigneur appelle Moïse. Et Moïse va vers le Seigneur. De même, pour ceux qui ont un petit peu étudié l'histoire sainte, nous savons que la fête des tentes, Yom Sukkot, a lieu 6 jours après Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la fête des expiations, la fête du grand pardon. Et à la fête des tentes, on construit, et aujourd'hui encore, moi j'ai eu la grâce d'aller en Terre Sainte, c'était justement après Sukkot, et dans les villes, on voyait au bas des immeubles, dans les jardins, des tentes, des cabanes en bois qui étaient construites. On construit une petite cabane, on met quelques branchages, mais on doit voir le ciel, c'est-à-dire la nuée, et cela exprime l'expérience du désert, cette marche vers la terre promise, la terre sainte, cette libération progressive du peuple, et on voit le ciel, notamment évidemment la nuit, on voit les étoiles, la main de Dieu qui couvre le peuple de sa main. Voilà. Donc 6 jours après, le Seigneur va prendre 3 disciples et ils vont gravir la montagne. Alors on pourrait dire, pourquoi Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi pas les 12? Est-ce que Jésus a des préférés? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Combien de fois dans nos vies nous disons ça? Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on appelle pour cette mission plus que moi? Pourquoi moi? En fait, Pierre, Jacques et Jean ont déjà été choisis par le Christ et ils ont été témoins de la résurrection, réanimation de la jeune fille lorsque le Christ lui a dit « Talita, jeune fille, gazelle, koum, lève-toi ». Et eux trois seront aussi témoins de l'agonie à Gethsémani lorsque le Christ sera à terre et avec cette angoisse aura cette sueur de sang, ce travail de son humanité qui choisit de rester fidèle au Père. Donc ce ne sont pas des privilégiés, ils sont témoins de choses particulières et ils auront à remplir une mission particulière. Ils auront à être témoins de la foi par rapport aux autres apôtres, notamment à Saint-Pierre. Lorsque Jésus, à la dernière scène, il dit « Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Tu vas lâcher prise, mais tu vas revenir et tu raffermiras la foi des frères. » Alors, on dit souvent, et c'est vrai, à ceux à qui on a le plus donné, on demandera plus. Alors en fait, pas de comparaison entre nous, pas de jalousie. Découvrons d'abord ce que Dieu nous a donné. Découvrons d'abord la grâce unique que Dieu a donnée à chacun de nous avant de regarder celle des autres et de vouloir celle des autres. Le Seigneur Dieu a donné à chacun de nous des grâces propres et des grâces pour l'Église, ce qu'on appelle des charismes. Nous avons tous reçu des charismes. Mais trop souvent, nous les mettons sous le boisseau. Il les prend à l'écart sur une haute montagne, des marches réelles et symboliques tout à la fois. Symboliques, puisque évidemment le Seigneur Dieu est présent partout, pas besoin d'aller dans les hauteurs. Des marches réelles cependant, parce qu'il faut y aller. Il faut donc mettre en marche notre volonté, il faut affronter la fatigue, la soif, la chaleur, parfois le découragement. Et cela nous invite à voir dans notre vie, nous sommes invités par le Christ à faire des efforts. Donc à la manière de celui qui grimpe la montagne, à la manière de l'instrumentisme, pianiste ou violoncelliste, qui va faire des heures et des heures et des heures de travail avant de pouvoir jouer tout ce qu'il souhaite jouer. Dieu est là avec nous, Dieu est en nous depuis le baptême, c'est une réalité. Et cependant, pour entrer en dialogue avec lui, pour le trouver vraiment, pour découvrir sa parole et pour le suivre jour après jour, non pas simplement lorsque on a une grâce particulière, mais jour après jour, eh bien oui, il faut beaucoup d'effort, d'ascèse, de confiance en lui. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Alors, transfiguré, en grec, métamorphose, changer dans une autre forme, être transfiguré, être resplendissant d'un éclat divin. Non, le Seigneur Jésus n'a pas inventé la lessive qui lave plus blanc que blanc. Ça, on laisse pour nos publicistes. Mais méta, trans, ça veut dire qu'il y a deux choses à la fois, deux réalités l'une dans l'autre. Il est véritablement homme, et par ce rayonnement de la gloire divine, il nous révèle qu'au même moment, il est véritablement Dieu, ce qu'on expliquera avec des mots un peu compliqués, l'union hypostatique, mais c'est-à-dire, c'est vraiment un homme qui est là, avec une volonté, avec une âme, une intelligence, et c'est vraiment Dieu qui est là dans toute sa plénitude. Grand mystère, mais qui est un mystère d'amour pour nous, mystère d'alliance. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit « Nous tous, qui n'avons plus de voile sur le visage, nous reflétons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés, métamorphose, transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est esprit. » Dans l'Épître aux Galates, « Vous tous, vous êtes fils de Dieu par la foi, par le baptême. Le baptême vous a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ, d'où le vêtement blanc du baptême, le vêtement blanc du prêtre. » On pourrait d'ailleurs, chaque chrétien, venir le dimanche à la messe, tous en blanc. Dans certaines communautés en Afrique, c'est ce qu'ils font. Hommes, femmes, enfants, de tous âges, viennent tout en blanc pour signifier « Nous avons revêtu le Christ, nous sommes transfigurés ». Malgré notre lourdeur actuelle qui reste. Donc quand on parle de blancheur pareille, on veut seulement dire que c'est le monde de Dieu qui a fait irruption au milieu de nous. Encore une bonne nouvelle, une grande lumière. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Ce ne sont pas des statues qui apparaissent, ce sont des êtres vivants. Moïse, Élie, sont morts des siècles avant. Donc c'est une lumière pour nous, pour nos défunts. Nos défunts sont comme Moïse et Élie aujourd'hui, ils s'entretiennent avec le Seigneur. Nous allons, frères et sœurs, à la vie, à la lumière, à l'amour. N'ayons pas peur de la mort. La mort est seulement pour nous ce passage. Ce que nous préparons, ce n'est pas notre mort, c'est notre vie éternelle. Nous allons vers le Père. Nous allons vers nos défunts, tous ceux que nous avons aimés, qui sont déjà passés dans la lumière. Alors évidemment, les apôtres sont stupéfaits, et c'est une grande stupeur pour eux. Ils ne savent quoi dire, même c'est une frayeur. Alors Pierre, le fougueux Pierre, prend la parole. Heureusement qu'on est là, on va faire des tentes. Pourquoi est-ce qu'il parle de tentes? Justement parce qu'on est dans cette époque de la fête de Soukhot. Sauf que le Seigneur intervient et il les recouvre d'une nuée. Voilà, la tente, c'est le Seigneur Dieu maintenant. Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Alors, ils redescendent, tout bouleversés. Le Seigneur leur fait des recommandations. Il leur interdit d'en parler aux autres. Seulement lorsque le Fils de l'homme sera ressuscité. Ils ne comprennent pas trop ce que ça veut dire ressusciter, se relever des morts. Évidemment, ils ne l'ont jamais vu. Mais ils ont été marqués. Et saint Pierre dira dans une de ses épîtres, la deuxième, « Ce ne sont pas des affabulations ce que nous vous disons. Nous avons été témoins de sa transfiguration sur la montagne. Je l'ai vu de mes yeux vus. Comme j'ai touché le Christ ressuscité, je l'ai vu dans la gloire divine. Aussi ce que je vous dis, j'atteste que c'est vrai. » Alors, tout cela pour nous dire que nous mettons notre foi en Dieu en suivant le Christ Jésus. Dieu s'est fait homme, Dieu a pris forme humaine, Dieu a pris langage humain pour que nous puissions entrer plus facilement en dialogue avec lui. Mais comme nous l'avons entendu dans la première lecture, et aussi d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, la première lecture c'était une annonce avec Abraham qui va offrir son fils parce que le Seigneur lui demande d'offrir ce qu'il a de plus cher, son fils qui était un don de Dieu. Paul aux Romains dit « Dieu le Père n'a pas épargné son fils, il l'a livré pour nous, par amour, non pas pour nous rejeter, par amour, comme témoignage de son amour. » C'est la plus grande folie d'amour que Dieu pouvait faire, se donner lui-même pour venir nous guérir, nous pacifier au plus profond de notre cœur. Et comme Abraham, nous avons sûrement des petits Isaac à offrir au Seigneur, non pas des enfants, mais des choses en nous qui peut-être nous bloquent dans notre relation à Dieu. Des choses ou des pensées peut-être à laquelle nous tenons tellement fermement et qui nous empêchent de suivre le Christ. C'est très impressionnant. Lorsque nous entendons vraiment cet appel du Seigneur et que nous entrons dans la suite du Seigneur, il y a toujours un moment, comme une deuxième conversion, où nous comprenons que nous devons lâcher notre volonté pour entrer dans la volonté de Dieu. Et là, tout devient beaucoup plus facile, d'une certaine manière, beaucoup plus beau. Parce que ça n'est plus nous qui avançons avec nos efforts, on prend souvent l'image du bateau, c'est plus à la rame, on a carqué les voiles et le vent nous pousse, on va tellement plus vite et tellement plus loin, c'est tellement plus facile. Alors en entendant ce récit d'Abraham, demandons au Seigneur, et moi Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Qu'est-ce qui dans ma vie, dans mes attachements, m'empêche de te faire confiance à fond? M'empêche de te suivre à fond, m'empêche de vivre véritablement dès ici-bas du ciel sur la terre. Qu'est-ce qui m'empêche d'exercer peut-être les charismes que tu m'as donnés? Et le Seigneur nous répondra si nous le demandons véritablement. Parce que, encore une fois, je ne cesse de le dire, mais le Seigneur veut que chacun d'entre nous, nous devenions des saints. La vie mystique, c'est-à-dire la vie d'union à Dieu, elle est pour tous les baptisés. Tous les baptisés sont invités à cela. Ne mettons pas de bornes à l'amour de Dieu. Laissons-nous envahir par lui. Alors, peut-être dans ce temps de carême, c'est l'occasion de choisir chaque jour de venir vers le Seigneur. Pas besoin de venir dans une église, chez soi, devant une statue, devant une croix, devant une icône. Jésus, Dieu, je viens vers toi. Je viens m'exposer maintenant à ta lumière, à ton amour. Jésus, façonne-moi comme tu veux. Je veux véritablement t'aimer. Pour faire la gloire du Père, pour ma propre joie, la joie de ma famille, la joie de mes amis, et pour servir au salut du monde. Amen. Maranatha, viens, Seigneur.